Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on a déménagé, on est en direct de Bordeaux. Je suis avec Mr. Olivier. Comment vas-tu, Olivier ?
Bonjour Yacine, je vais très bien. Bienvenue.
Bah écoute, merci. On est où ?
On est à Bordeaux, dans le centre-ville, dans les locaux de Singulaire, société que j'ai créée en 2014.
Tu me vois venir ? Qu'est-ce que Singulaire ? Après, on arrête pour les formalités. Présente-toi quand même, ce serait bien.
Oui, donc Olivier Maffrand, je suis le fondateur de Singulaire. C'est une société donc qui a 10 ans et qui est spécialisée dans l'inspection des pales d'éoliennes, l'analyse des photos que l'on récupère par drone et que l'on traite par intelligence artificielle. Et ensuite, on organise le reporting et la planification des opérations de maintenance, donc de réparation.
Sauf que si je spoil un petit peu, ça n'a pas commencé exactement comme ça.
Non.
Ça a évolué.
Oui, on a tâtonné. En vérité, on est sur le secteur de l'éolien seulement depuis la fin 2018.
Ok.
Et donc, les trois et quelques années qui ont précédé, en fait, on cherchait à la fois notre marché, notre offre produit et notre modèle économique. Ça fait quand même beaucoup.
C'est vrai que... Sur quoi, du coup, si c'était pas de l'éolienne?
On était à l'origine attiré par l'ouverture de l'espace aérien à la profession de télépilote de drone. On voyait qu'il y avait un engouement pour ce nouveau type d'activité. Qu'il y avait une offre de service qui n'était pas très claire, pas très lisible, parce que les pilotes de drones sont avant tout des pilotes et pas des spécialistes commerciaux du marketing.
Okay.
Donc, il fallait clarifier un peu l'offre de service, parce que ça peut concerner aussi bien l'industrie que l'agriculture ou l'inspection d'ouvrages d'art, par exemple. Et du côté de la demande, on s'est retrouvé avec des donneurs d'ordre potentiels qui savaient pas trop exprimer leurs besoins et surtout choisir entre deux offres. Donc on avait identifié un besoin, on croyait que c'était un besoin, d'une sorte de place de marché.
Ouais.
Et puis je pense qu'on est tombé dans le piège de ces pseudo places de marché, pardon, parce qu'en fait c'était un annuaire. Hein, si je simplifie à l'extrême ce qu'on avait mis au point, c'était un annuaire qui mettait l'offre et la demande en relation, mais il n'y avait absolument pas de récurrence dans le modèle et on avait du mal à monétiser la chose. Bon, on n'a pas été très rapide, on a mis 2 ans et demi, 3 ans à réagir, mais l'essentiel, c'est qu'on a trouvé notre segment.
C'est que vous ayez réagi. Drone, c'est quoi? C'est l'Eldorado 2014-2015?
Oui, c'est ça. La France a été assez pionnière en 2012 en ouvrant son espace aérien à l'exercice professionnel du drone. Donc là, tu as deux types de professions qui sont engouffrées dans cette opportunité-là. C'était soit des fans d'aéromodélisme qui se sont dit « Tiens, je vais vivre de ma passion et je vais facturer des prestations de service en faisant voler un drone. » Mais tu as une autre population qui s'est aussi positionnée sur ce marché-là. C'était des spécialistes de la photographie qui se sont dit « Ah, mais le drone, c'est un nouveau moyen de prendre des prises de vue. » C'est innovant. Et d'ailleurs, ça s'est vu assez rapidement. Hein. Si tu regardes bien tous les reportages à la télévision, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant qui se font par drone. C'est devenu une façon de prendre des prises de vue assez commun.
Commune. Je valide. Bon, on va revenir un petit peu sur la phase de création, sur tout ça. J'ai une première question à te poser. Je vais pas trahir ton âge. Mais c'était quoi l'entrepreneuriat quand tu avais 18 ans pour toi? Est-ce que c'était un plan de dans ta carrière?
Non, vraiment pas. Mais là, je crois même qu'il faut remonter un peu plus tôt dans ma vie. ça remonte à l'enfance. Et il m'est arrivé de vendre des crêpes pour des organisations caritatives, tu vois. Et ce qui me plaisait là-dedans, c'était pas tellement de faire de l'argent. Je me rends pas bien compte de ce que ça générait à l'époque, mais j'avais le sentiment que ça rendait service quelque part.
Ouais.
Et c'était une juste cause sociale avec une petite teinte mercantile qui me déplaisait pas.
Ok.
Ça, c'est à l'enfance. Et puis, quelques années plus tard, là, plutôt dans l'adolescence, la vie d'étudiant,
Ouais.
J'avais fait affaire avec un de mes oncles qui était extraordinaire. Il se trouvait qu'il était représentant Burlington sur la région Île-de-France.
De?
De Burlington. Alors, toi, t'es trop jeune, tu
Non, mais
connais pas
ça me
ça.
parle, c'est ça le
Mais
pire.
les
C'est
chaussettes
quoi le...
Burlington, à la fin des années 80, 90, c'était les chaussettes à avoir. Ça coûtait
Putain,
une blinde, en
j'aurais
plus.
jamais deviné que c'était des
C'est
chaussettes.
ça. Mais ça coûtait cher. À l'époque, c'était probablement dans les 60 francs. Donc, 60 francs, ça fait quoi? Ça fait
5 euros,
une
ouais.
douzaine, non, une douzaine
Une
d'euros.
douzaine d'euros,
Une
ouais,
douzaine d'euros. Et ils me les vendaient à bon prix. Et moi, je les revendais à bon prix pour que ce soit attractif à mes potes
Ok.
étudiants. Et la différence, ça me faisait mon argent de poche pour mes soirées étudiants et trucs comme ça. Et je pense que c'est là que la graine a germé. Parce que de mon point de vue, un chef d'entreprise, c'est ça. C'est une colonne des plus, une colonne des moins, et faire en sorte que les plus l'emportent sur les moins.
Mais ça, attends, attends,
Et
attends.
voilà.
Ça, tu le dis aujourd'hui. J'ai
Ouais.
l'impression que tu es en train de t'analyser et de est-ce que vraiment, quand tu étais plus jeune, tu avais ce visu-là? Est-ce que ça a vraiment été une graine qui a germé? Ou est-ce que c'est des années plus tard que tu t'es réellement lancé dans l'entrepreneuriat?
Non, c'est beaucoup plus tard, mais quelque part, j'ai pas oublié ces deux épisodes-là
Ok.
qui m'ont construit. On pourra parler de l'enfance un peu plus tard, mais c'est vrai que ça a été fondateur.
Ils ont fait écho quand? Je sais pas, c'est peut-être quand tu étais en CDI dans une autre boîte, mais quand est-ce que ce moment du petit Olivier qui vend des crêpes, il t'a refrappé à la tête, tu vois?
Je crois que mon moteur pour répondre à ta première question, c'est une sorte de devise qui tient en trois mots, c'est liberté, créativité et volonté.
Ok.
Et ça, en réalité, ça m'a animé pendant tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui encore. Hein, ça reste là ma devise, une de
Ouais.
mes devises. J'en ai quelques-unes.
Que tu vas nous balancer, je sens.
Voilà. Mais même lorsque j'étais salarié dans les grosses boîtes, j'ai eu la chance. J'ai analysé ça un peu plus tard. J'ai eu la chance de, à chaque fois qu'on me confie une création de poste, tu vois. Et donc la page blanche pour moi, c'est pas une hantise, c'est une opportunité. J'adore ça. J'aime bien démarrer de zéro et ça participe du parcours de l'entrepreneur, je pense, tu vois. Donc à la fois le côté commerçant, le côté création et puis l'envie d'en découdre, la volonté. Et tout ça s'est exprimé plutôt vers l'âge de 35 ans après avoir fait un MBA à l'IUSE. Il se trouve que j'avais aussi des modules à Stanford et à l'époque, les profs là-bas nous proposaient de faire le tour de certaines startups. Dont une qui était encore toute jeune, elle avait 4-5 ans, c'était Google. Et je suis sorti
Arrête.
de là, mais avec une sensation de facilité, évidemment apparente. C'était merveilleux, la liberté, la Californie, enfin tous ces trucs-là. Et je suis rentré enfant, je me dis, c'est ça que je dois faire.
Ils s'étaient connus Google 4-5 ans
Bah,
à
je crois que
l'époque en
c'était
France ou
créé en
pas?
98. Moi, j'ai dû faire la visite en 2004, quelque chose comme ça.
Oh
Ils
oui,
avaient
quand même.
5-6 ans. Ouais,
Ok.
ça commençait déjà à avoir une certaine importance. Ouais.
Bon, on est déjà en train de faire de l'introspection, mais ça, c'est plutôt dans la deuxième partie du podcast. On va
Ok,
revenir aux bases.
allez.
Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de loucher sur l'écran. Ah, je suis pas sûr qu'on le voit en vidéo, mais bon, dites-vous qu'on est sur une table
De l'espace.
de l'espace futuriste. Je sais pas quel film. Bon, allez, je vais même pas. Je sais quel film tu vas citer, donc vas-y. Mais présente-nous pardon, cette salle, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, que je suis venu. Ça te tenait à cœur aussi de me présenter les bureaux, et c'est vrai qu'ils sont canons. Bon, il y a une petite éolienne qui tourne, mais j'ai l'impression qu'il y a une belle vibe. Raconte-moi tout ça.
On est bien ici. On est arrivé ici en avril 2021. C'était juste après les deux confinements.
Ok.
Une partie de l'équipe avait vécu complètement confinée dans leurs apparts respectifs et c'était devenu intenable, évidemment. Et quand on est arrivé là, j'ai pris les locaux complètement bruts, c'est-à-dire qu'il y a du béton
Ok,
apparent
donc t'as tout
et il fallait en faire
refait.
quelque chose. Voilà.
Ok.
Et j'ai fait appel à une décoratrice très talenteuse qui s'appelle Stéphanie De Dis de l'agence Perfectors à Boulogne. Et voilà, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on retrouve une atmosphère évidemment propice à la création, mais qui nous ressemble un peu comme si on était chez soi, avec le plaisir
Pas comme
de
sur un
venir au travail
chantier.
et d'avoir une vie sociale hein,
Ouais.
en tant que groupe, mais en même temps de pas complètement tourner le dos au confinement, parce qu'on avait vécu 2 ans chez soi et que c'était quand même, il y avait quand même des côtés sympas.
Ok.
Voilà, et les résultats extraordinaires. Stéphanie a fait un job fantastique. Il y a des vibrations extraordinaires ici et on est tous heureux de venir, même le lundi matin, de venir bosser.
Jusqu'au tableau ou pas?
Oui.
C'est elle aussi l'étalot.
Oui, elle a
donc
choisi,
elle bien
elle a choisi l'artiste. Ouais.
Elle s'est adaptée à l'éolienne. Très bon. Bon, on la salue. D'ailleurs, on le dit, on est, enfin, c'est pas cloisonné d'ailleurs. Enfin, allez, il y a une ou deux salles qui est fermée, mais du coup, toute ta team nous entend faire ce podcast.
Absolument.
Ouais. Allez, raconte donc déjà, tu nous as dit, mars 2021, création de ces bureaux.
Ouais.
Aujourd'hui, je te laisse représenter combien vous êtes, parce que je vais le balancer, mais vu qu'on parle depuis une heure avant ce podcast.
Aujourd'hui, on est 13, on est bientôt une quinzaine.
Ok.
À chaque fois qu'on franchit des paliers, probablement qu'il y a entre 3 et 5 nouvelles personnes qui nous rejoignent.
C'est voilà. Juste, c'est parfait. En fait, j'allais te demander le chiffre d'affaires, même si je le connais déjà, mais tu vas nous le rebalancer. Par contre, t'as mentionné le mot, ce sont les paliers.
Ouais.
C'est quoi les différents paliers que vous avez atteints de 2014 à aujourd'hui? Ça fait 10 ans.
Oui.
Est-ce que ça se compte en argent? Est-ce que ça se compte? Bon, je pense déjà que ça se compte en pivot et trouver son business model, mais raconte-nous tout ça. Et par ailleurs, hein,
ouais.
Qu'est-ce qui a aidé à atteindre ces paliers à chaque fois?
Alors, les paliers. Bon, on en a parlé, il y a eu ce premier pivot, on s'est rendu compte que l'histoire de la marketplace, là, c'était...
Ouais, sur du drone...
C'était n'importe quoi, maintenant on va le dire, au début on voulait... je voulais pas forcément le voir. Le premier grand jalon dans l'histoire de Singular, c'est en 2019, quand, au hasard d'une rencontre, et Dieu sait si le hasard a une place importante dans le parcours d'un entrepreneur, je parviens à ouvrir la porte de Vestas France. Alors Vestas, c'est le numéro un mondial de la fabrication d'éoliennes. C'est un
groupe. C'est la petite éolienne derrière toi, là.
Ouais, c'est ça.
Enfin, la petite, bien grande. Mais...
Ouais. Et c'est le hasard des rencontres et du bon timing. Hein. C'est une image que j'utilise souvent. C'est le surfeur qui arrive au bon moment sur la bonne vague avec le bon surf dans un bon état de préparation. Ça fait la différence. Et il se trouve que Vestas commençait à se poser la question de l'industrialisation des inspections. Et donc, on avait un discours, pas qu'un discours d'ailleurs. Comment ?
Métier fait à la main.
C'était fait avec des cordis ou avec des gens avec des appareils photo depuis le sol, mais c'était pas adapté à une industrialisation, tu vois, parce qu'il y a aujourd'hui 360 000 éoliennes dans le monde, c'est énorme. Et pour être capable de faire la promesse quand on est fabricant d'éoliennes à ses propres clients, alors les clients sont les producteurs d'électricité, hein, du EDF, du NG, comme on les connaît en France, par exemple, ou du Total, et tenir la promesse de l'industrialisation auprès de ces opérateurs-là, c'est assez compliqué pour l'industriel. Et donc, nous, on est venu avec cette idée de plateformisation du service. Hein. On avait construit ça sur les cendres de la marketplace, puisqu'on avait une base de pilotes de drones qui nous était restée fidèle. On avait les mécanismes de réservation et de planification des inspections. Et on adaptait ça aux problématiques de l'inspection d'éoliennes. Voilà. Et Vestas nous a dit « Ok, chiche ». On a envie de vous suivre.
Tu es allé les chercher ou pas?
Ouais, je suis allé les chercher.
Je
suis allé les chercher. En fait, ça faisait 2 ans que je retournais autour.
Comment on tournait autour? On bombarde d'emails.
Non. On remonte à un voyage en délégation organisé par Business France à Copenhague.
Mmh.
Là, ça doit être en 2017. Et Vestas avait eu la gentillesse de mobiliser une personne de leur équipe directement concernée par le sujet. Et on avait échangé pendant, tu sais, c'était un speed meeting,
très rapide, mais t'as
20 minutes pour convaincre.
Mais t'as gardé des coordonnées.
Et voilà, on a gardé les coordonnées, mais c'était peut-être un contact un peu trop haut dans l'organisation.
Okay.
Et c'est pour ça qu'ensuite, via des partenaires Capgemini, pour pas les citer, j'ai réussi à ouvrir la porte de la direction de Vestas en France. Et cette filiale française a une tradition d'innovation et ils nous ont dit « Ok, on vous suit, votre vision elle est bonne, c'est la nôtre également, donc on y va ». Et là, un peu contre toute attente, hein, j'osais pas espérer ça, ils nous disent « Bah voilà, on a 1000 éoliennes à inspecter en France, on vous confie le marché ».
Alors, de bon augure.
Oui.
Mais t'es prêt à l'instant T où tu te dis, oh putain. Qu'est-ce que tu te dis?
Ben, si Vestas France nous écoute,
C'était du risque de leur part.
Oui.
Ils savent toujours qu'il y a une incertitude.
Non, ils le savaient très bien. Nous, on était prêts sur le papier.
Mm-hmm. Entre le papier, la théorie, la pratique.
On était prêts dans le logiciel qui avait les fonctionnalités nécessaires.
Mm-hmm.
Après, organiser sur le terrain la coordination des inspections de 1000 éoliennes avec les bons pilotes de drones, etc. C'est vrai que c'était un challenge, mais on s'en est sorti. Et j'en veux pour preuve que à la fin de cette campagne 2019, pardon, Vestas France, qui faisait partie de l'organisation un peu plus large de Vestas Europe, Europe du Sud, a fait un peu tache d'huile, et d'autres pays, donc l'Espagne, le Portugal, la Turquie, l'Italie aussi à cette époque-là, nous ont demandé de les accompagner en 2020. Et puis là, c'est vraiment à ce moment-là que ça a véritablement décollé, sans jeu de mots, avec un paradoxe de taille, parce que ça coïncidait avec la période du confinement.
Donc, donc un peu
galère. Alors, 1000 éoliennes en 2019, on est passé à 4000, tu te rends compte, un fois 4 en 2020, avec quelques semaines ou mois de confinement.
Ok.
Bon, mais on s'en est sorti. Je pense que quand on est entrepreneur, on aime ce genre de challenge. Donc, c'était à la limite une joie de se frotter à ce genre de difficultés. 2021, d'autres pays nous ont rejoints, notamment en Amérique latine. Là, on est passé à 6000 éoliennes. En 2022, on a fait 8000. Et 2023, on a franchi un palier, on s'est rapproché des 11000.
Okay.
Et là, en 2024, on va se rapprocher probablement des 14-15000 éoliennes. Voilà.
C'est combien de clients, ça? Et c'est dans combien de pays?
Alors, on intervient dans 31 pays depuis hier, dans 32. Puisque, voilà, c'est un scoop.
C'est
on a appris hier qu'on venait de décrocher un contrat en Australie.
Nice.
Voilà, c'est extraordinaire.
Il y a du vent et des éoliennes là-bas.
Oui, oui, oui. C'est un pays qui a une vraie culture, un peu comme le Brésil qu'on connaît bien maintenant. C'est un pays qui a une culture du renouvelable.
Ok.
Voilà, donc c'est toujours une joie d'accompagner nos clients fabricants dans ces pays-là. Alors c'est pas Vestas, on a un autre. Voilà, donc c'est une satisfaction. Et puis quelque part, moi je peux pas me payer le luxe en termes de temps de voyager, de visiter tous mes clients dans 32 pays, mais quand on récupère les images que les pilotes de drones nous envoient dans chacun de ces pays-là, là je pense à la Turquie, à la République Dominicaine, à l'Argentine,
ça te donne envie de voyager.
Oui, quelque part on voyage par procuration, mais
de temps en temps il faut aller voir le client. Ouais, c'est bien d'aller voir le client.
Ouais,
en physique.
Tu sais, on s'est privé de ces voyages-là pendant les 2 années de confinement, et puis on a un peu lâché les chevaux en 2021-2022. Là, on a fait la tournée de certains clients.
Je voulais juste parler argent.
Ouais.
Ça représente quoi, 2000, 4000, 10000 éoliennes? On se rend pas forcément compte, et sachant que la dernière année. Bon, allez, je le balance. C'est 3 millions, c'est ça, TCR?
Ah, oui.
Il est pas si content que je le balance.
Ouais, on a fait 3 millions d'euros.
Donc ça va, sera pas à cut.
En 2023, ben non. Voilà, on est content. J'ai souvent entendu dire, et je le confirme, que dans un parcours d'entrepreneur, c'était le premier million d'euros qui était difficile à atteindre.
Combien de temps? Et entre le premier et le troisième, combien de temps?
Il a fallu 3 ans.
Ok, ouais. Alors qu'à, donc il a fallu potentiellement 7 pour le premier.
C'est ça.
Et 3 pour les deux qui suivent.
Et les croissances sont assez, assez impressionnantes, hein. On est très satisfait de ça. On a eu les honneurs du classement des échos, là, il y a 2 mois.
Ok.
On est arrivé, je crois, 25e dans le top 500 des entreprises de croissance. Donc on est content, mais on fait pas ça pour figurer dans les classements, mais on va pas
on va pas
bouder notre plaisir.
Ouais.
Voilà, on est sur des taux de croissance de 25 à 35% en fonction des années.
On enchaîne, cher Olivier, on va parler thunes, parce qu'on est en train de parler thunes. Ouais. Moi, j'aimerais te parler des levées de fonds, de la rentabilité.
Ouais.
Est-ce que vous avez levé des fonds depuis quand? Je te pose bien et sois honnête, hein.
Ouais.
Depuis quand tu parles de rentabilité?
Alors,
à toi-même même.
À moi-même depuis le premier jour. J'ai fait une petite entorse en faisant une mini levée de fonds de, je sais plus combien c'était, 150 000 euros en 2017, mais c'était avant qu'on trouve notre positionnement, hein, rappelle-toi.
Donc c'est avant le pivot?
Ouais, avant le pivot. Avant le pivot.
C'est un an après le pivot?
Pardon, le pivot était un an après. Ouais. Et mais ça m'a permis de faire une rencontre extraordinaire avec un de mes business angels qui est Alexandre Ishaï, que j'embrasse. C'est une star du web.
On l'embrasse.
Et Alexandre m'a beaucoup aidé dans ma réflexion et mon cheminement, et toujours d'ailleurs.
Okay.
Toujours.
Et lui, il te parlait de rentabilité en 2017.
Oui et non. Oui et non. Je pense que quand il a mis un peu d'argent chez nous, il envisageait un deuxième tour. Et je pense qu'il a vu à qui il avait affaire, et il a un peu lâché prise sur le sujet. Justement, je suis très reconnaissant de ça, c'est qu'il a respecté mes propres convictions à propos de ce sujet sur lequel je suis un peu intarissable, de la levée de fonds.
Raconte. Et, à qui il avait affaire,
et voilà.
Justement.
Je suis assez j'en avais assez tranché, moi, sur les levées de
Vas-y.
Fonds.
Vas-y.
Je pense qu'une levée de fonds, ça fait pas de toi un chef d'entreprise.
Ok.
Une levée de fonds, ça fait de toi au mieux un très bon gestionnaire de budget, voilà.
C'est la danse du
ventre. C'est un peu désolant comme ça a été présenté, je trouve, depuis une dizaine d'années comme l'alpha et l'oméga de la création d'entreprise. Alors pardon, justement, je viens de faire un lapsus.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est pas de la création d'entreprise, c'est de la création de start-up. Ce sont deux modèles complètement différents.
Donc c'est pas ok. Donc la levée de fonds est propre à la start-up déjà pour toi.
Ouais, je trouve. Ouais, ouais je trouve. Je trouve que bâtir un modèle de création d'entreprise sans un business plan qui soit solidement construit sur un métier, un business, une activité qui équilibre les comptes. En fait, c'est un rêve. C'est pas un projet d'entreprise. C'est un rêve.
Est-ce que t'as été conditionné par ce rêve en 2017 pour lever, toi, ou pas forcément? Il y avait un petit billet quand même.
Ouais, c'était un petit billet, mais voilà, qui a été cramé assez rapidement. Si tu c'était plus un billet de survie qu'un billet de développement.
Alors je disais billet,
parlait, tu vois.
BIIS, plus un billet du rêve. Mais bon, ça marche aussi. Hein.
Moi, j'étais dans l'argent.
Ouais, ouais, j'ai très vite compris quand t'as parlé de cramé. Non, mais pour revenir là-dessus, est-ce que justement c'est un biais, est-ce que tu as été biaisé par justement toutes ces levées de fonds? Et encore, 2017, on est quoi, 2 ans avant l'Eldorado de la levée de fonds du 2019-2020, quoi.
Ouais, alors là, je voudrais revenir sur mon expérience d'entrepreneur. Ça fait 20 ans hein, que je suis entrepreneur et je suis d'une certaine manière tombé un peu dans ce piège de la levée de fonds avec ma première expérience. J'avais créé à Toulouse une entreprise dont la spécialité était l'édition de logiciels toujours, mais dans le domaine du bâtiment.
Okay.
J'étais accompagné dès le début par des business angels qui étaient prêts à mettre de l'argent à chaque fois que j'en demandais. Hein, tu vois. Et puis...
C'est normal, ça.
Ben non, justement, mais au début, on est dans l'euphorie de la création. On était avant la crise de 2008. C'était un cycle assez courant dans le domaine des startups à l'époque, tu vois. Okay. Et en fait, au dernier tour de financement, toujours avec les mêmes business angels qui avaient des moyens assez conséquents, c'était avant juin 2008, donc avant la crise financière. Et ils m'ont dit, ouais, on y va, vas-y, recrute, et on met l'argent dans la foulée, etc. Donc voilà, j'ai fait cette erreur de passer de 5 à 20 salariés. Évidemment, il a fallu, en un claquement de doigts, je sais pas, ça a dû prendre 3-4 mois de recruter autant de monde.
Humainement, c'est possible de le faire, ça?
Oui, à l'époque.
Tout seul, je veux dire, ouais.
Oui, parce qu'à l'époque, il y avait moins de difficultés à recruter qu'aujourd'hui.
Ouais, mais je veux dire, ça reste la même zone d'incertitude. Tu es mis sur de l'humain.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais la vision était claire. On avait envie d'y aller. Pour accueillir autant de monde, il avait fallu déménager, prendre des locaux plus grands. Enfin, là, tu vois, le burn rate mensuel qui commence à gonfler.
Mmh.
Et puis, en juin, tu commences à recevoir un coup de fil du conseil de tes investisseurs qui dit « Olivier, les 4 millions, on n'avait pas besoin tout de suite. Est-ce que 2 plus 2, ça va aller ?» Je dis « Oui, bien sûr, etc. » Bon, ils investissaient dans la boîte depuis plusieurs années déjà, donc il n'y avait aucune raison d'en douter. Et puis, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, décembre 2008, je reçois un coup de fil et là on m'annonce que tu comprends Olivier, affaire Madoff et tout ça, on est rincé. Du coup on vient pas. Voilà.
Donc on remet pas au pot.
On remet pas au pot.
Et toi tu préparais cette levée.
Et voilà. Et là tu te retrouves avec un burn rate mais qui a triplé, quadruplé très rapidement. T'as probablement pas de quoi tenir un mois et demi ou 2 mois de cash. Et l'agonie, elle a duré 3-4 ans. J'ai déposé en 2013. Donc ouais, quasiment 4 ans. Par ma faute, hein, parce que j'étais dans une espèce d'entêtement et je voulais continuer à y croire.
Je voulais te poser cette question.
Ouais.
Et ça, c'est pas préparé. Dans tous les cas, on en avait pas parlé de ça, mais ça m'intéresse énormément. J'ai beaucoup parlé. Récemment, je fais un podcast avec Roxane Varza et Charlie Perrault, que je vous invite tous à aller écouter.
Ouais.
Et on parle justement des faillites, des redressements judiciaires, notamment pour des boîtes qui ont cramé beaucoup, mais qui ont levé beaucoup. Et juste avant, t'as dit que c'était de ma faute. Qu'est-ce qui aurait pu changer? Est-ce qu'on doit réellement avoir un burn et préparer une levée de fonds et se dire que si ça tient à un, deux ou trois oui d'une personne, ta boîte, elle peut couler en un mois du jour au lendemain? Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Je pense que...
Est-ce que tu étais trop all-in? Ou est-ce que tu dépendais d'autres personnes? Et
là, je voudrais faire une incursion sur le terrain de la psychologie. C'est un sujet auquel je m'intéresse de manière assez intensive.
Oh, je connais pas du tout, moi.
Depuis quelques semaines. Et y a un psychologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Moussa Nabati. Et dans le cadre d'un échange avec Fabrice Midal, ils abordent tous les deux l'enfant intérieur. Parce qu'en fait, on est sans arrêt balancé entre l'adulte que l'on est ou que l'on doit être et l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, on va lui parler au travers de son émotionnalité, alors que l'adulte, au travers de sa rationalité. Et je pense que la levée de fonds, en fait, parle à l'enfant intérieur avec cette espèce de promesse de retour à la matrice originelle où tu vas dire, je vais satisfaire tes besoins primaires, je vais t'apporter de la nourriture et te sécuriser. Et en fait, l'investisseur, c'est exactement ça, le discours qui te tient. Je suis ton sauveur, je vais te dire quoi faire de ton argent, tu vas recruter, tu vas grossir, etc. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Et moi, j'avais probablement envie d'entendre ce discours-là. Et c'est pour ça que c'est, d'une certaine manière, un peu de ma faute. J'ai cru ce discours-là. Sauf que le jour où les difficultés arrivent, fameux mois de décembre 2008, janvier 2009, là, l'enfant interne, il disparaît, il s'efface et l'adulte se retrouve face au chaos. Et là, c'est à toi de gérer. Et en fait, tu te rends compte que personne n'est là pour te sauver.
C'est tellement intéressant parce que je pense que l'enfant, on ne doit pas le tuer. On doit garder une âme d'enfant par moment.
C'est important, c'est l'enfant intérieur qui a des rêves.
Le problème, c'est que ces rêves, est-ce qu'ils sont pas antinomiques par moment avec le côté rationnel, le côté adulte que t'as? Est-ce que ton apprentissage, c'est quoi? C'est toujours trouver une adéquation, un juste milieu ou un alignement entre ces deux personnes qui n'ont pas le même âge, pas les mêmes ambitions ou pas les mêmes contraintes?
Tu sais, j'ai lu il y a pas longtemps une petite citation, je sais plus qui a dit ça, mais la passion te fait vivre et la raison te fait durer.
Okay.
Tu vois, et je trouve ça très beau parce que c'est une réponse à la question. L'enfant intérieur, il rêve, il a de la passion, alors que l'adulte, il raisonne, il essaye de s'inscrire dans la durée. Mais parfois, en l'espèce, le cas que j'évoque tout à l'heure, l'adulte, il est arrivé trop tard. Le mal avait été fait et probablement qu'il aurait dû davantage raisonner l'enfant intérieur.
Est-ce que y a des moments où tu raisonnes encore comme un enfant intérieur, que ce soit positif comme négatif, je sais pas.
Ah oui, moi j'ai vraiment besoin de ça.
Ok.
Ah, ouais.
Tu veux nous donner un mini exemple ou juste qu'on comprenne, ou même dans le pro, tu vois, mais te dire, y a des moments c'est presque irrationnel, c'est la passion, et tu sais que c'est le mini Olivier là qui faisait ses petites crêpes là.
maintenant je préfère en rigoler, mais. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu une enfance et une adolescence très heureuse, c'est un euphémisme. Okay. J'aurais pu un peu m'enfoncer dans une espèce de rage destructrice. Mais en fait, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais fait le choix de regarder la vie plutôt du côté du désir, du plaisir, de l'envie, et probablement de la conviction que mes lendemains, un jour, seraient meilleurs. Tu vois? Et c'est comme ça que le rêve prend forme, tu te projettes, et tu finir par penser à des projets, faire en sorte qu'ils se produisent. Et en fait, je crois que c'est ça qui me résume mon moteur, c'est l'envie de rendre des choses possibles, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours été attiré par la créativité. Je te parlais tout à l'heure de la page blanche des premiers jobs que j'ai décrochés, et ça faisait écho à ces rêves d'enfant.
Waouh, là tu m'arrêtes d'un coup, je voulais rebondir, mais tellement intéressant. Je veux juste parler d'une chose sur, en gros, ce que tu dis sur l'enfant, c'est aussi de s'auto-convaincre, quitte à se mentir par moment, quitte à se voiler la face, mais par moment vaut mieux. Est-ce qu'un petit mensonge, comme toi, te dire qu'un petit mensonge, la vie est super belle, alors qu'il y a des moments en fait, en réalité, elle l'est pas. Est-ce que c'est pas ça qui te permet tenir le cap? Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites aussi de tomber dans une utopie, quoi? Bon, après, j'arrête avec la psycho, promis.
Non, c'est intéressant.
Je me base de la psycho, de la
psylo. On pourra en parler pendant une heure, mais si, de temps en temps, il faut oser fermer les yeux face aux risques qu'on prend, face aux dangers. La vie est un danger. Dès que tu nais, la vie est un danger, il faut l'accepter et prendre sa part de risque. Moi, je suis convaincu de ça. Ouais.
Non, 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 je suis en train d'oublier ma question, mais il y a une question que je veux te poser depuis tout à l'heure qui
Ouais.
est... On est en train de parler de ça. Attends, je me remémore. Là, je suis en train de faire travailler ma mémoire. On parle de l'enfance. On parle. On a parlé. Merde, j'ai complètement oublié ma question. J'ai trop les boules. Elle va revenir tout à l'heure, t'inquiète. Tu m'as dit un truc, tu m'as dit l'innovation de rupture. J'y crois pas.
Ben, tu
Tu te
vois,
considères comme une start-up déjà ou pas?
non, mais vraiment pas.
Ok.
Et dès le début, j'ai clamé haut et fort qu'on était une entreprise et non pas une start-up. C'est peut-être une coquetterie, hein, mais j'y tiens. Vu ce que j'ai vécu avec ma première expérience d'entrepreneur,
Il est là
c'est vrai
le,
que.
c'est là la différence, c'est qu'un entrepreneur, une entreprise crée de la valeur et pour toi une start-up crée de la levée de fonds. Ouais,
Ouais, clairement.
ok.
Clairement. Tu vois, moi, je suis sceptique quand je vois un peu moins maintenant, mais enfin, on a eu droit à ça quand même pendant une bonne dizaine d'années où tu as les pontes de la French Tech qui te portent ONU, les Adam Newman, les Cathy Holmes, les Sam Bankman-Fried et
Non,
tout
attends,
ça,
et
tu
tu
vois.
donnes que des gens qui s'en fait condamner, là.
Mais ouais, mais à l'époque, c'était les gloires, c'était les dieux, tu vois, on ne jurait que par ça,
Donc,
ou
ouais.
cette folie de vouloir avoir tant de licornes en France.
Bon, on l'a encore, hein, aujourd'hui,
Non,
hein.
ouais, mais non, un
T'as
peu
pas
moins, je
vu?
trouve.
Ah, bah là,
Un
je
peu
viens de
moins.
voir Mistral AI ce matin. Je viens de voir rumeur comme quoi ils relèvent de
Ouais, j'ai
l'argent
vu
sur une
ça.
valo à 5 milliards. Et je me suis dit, bon, ils sont encore très loin d'OpenAI qui a levé, je sais plus quoi.
Ouais.
10 milliards, je crois
Ouais,
déjà. Enfin,
ouais.
laisse tomber. Mais pourquoi on l'annonce en fait? C'est juste dire ils continuent leur course.
Mais pour moi,
C'est
mais c'est intéressant la
particulier.
course, tu vois. Pour moi, c'est une pyramide de Ponzi, ce truc-là. C'est-à-dire que c'est le dernier tour qui donne leur raison d'avoir investi au tour précédent. Tu vois? Et c'est une espèce de
Sauf
course à
s'il y a un
échalote
rachat, quoi.
et parfois, ça se termine mal. Et voilà, moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Regarde là ce qui se passe, là, les déchirements en place publique entre The Family et Oussama Hamar, mais. C'est triste au final. Ils ont eu un rôle à jouer aux côtés de France Digital dans les années, je sais plus quand c'était, 2012, 2013. Mais cette période du tout argent, je trouve ça éloigne des vraies problématiques. En théorie, si je me fie au code du commerce, mais peut-être que ça a évolué, la vente à perte est interdite. Voilà, hein, en théorie. Donc
Non,
une
mais c'est vrai.
entreprise, ça doit équilibrer ses comptes. Et ce qui ressort de tout ça, un petit bénéfice. Le bénéfice, c'est pas un mot tabou, hein, il faut qu'on l'accepte en France. Le bénéfice, il doit être investi dans le développement de l'entreprise, soit des recrutements, soit de la R&D, etc. Mais voilà, de mon point de vue, une entreprise, c'est ça. Une start-up, ça lève des fonds.
J'ai retrouvé ma question, mais je te la pose juste après.
Ouais.
Je reviens là-dessus parce que sinon je vais l'oublier. Tu as quand même dit donc du coup que tu ne te considères pas, pardon, comme une start-up. Et du coup, je reprends ma phrase. L'innovation de rupture, j'y crois pas. Explique-moi.
Oui, ben, tu vois, c'est complètement lié à la levée de fonds. On entend hein, les fonds qui investissent, qui disent allez-y, recrutez, recrutez, soyez disruptifs. Hein, tu te rappelles cette expression, on l'entend moins déjà maintenant, mais soyez disruptifs, devenez les Facebook et des années à venir. Bon, d'abord, tout le monde n'est pas, comme il s'appelle, Mark Zuckerberg, hein, faut quand même bien l'admettre. Et puis le marché n'a pas besoin partout de disruption, c'est pas vrai. Nous, tu vois, on est dans l'industrie, alors c'est moins sexy, hein. Encore que. Moi, je suis très admiratif du boulot que fait BPI France dans le domaine de l'industrie. Ils ont vraiment fait
French
beaucoup de
Fab.
choses pour, ouais, c'est ça, pour rendre l'industrie à nouveau sexy. Mais quand on s'adresse à ces secteurs d'activité-là, évidemment, on est dans le B2B, on s'adresse à des humains, il faut pas l'oublier. Et une des premières choses à prendre en compte, c'est la résistance au changement. D'accord? Ça sert à rien de venir, tu vois, je parlais tout à l'heure de Minority Report, probablement que si j'avais tenu ce discours-là, un peu fantasque en 2019 lors de mon premier rendez-vous avec Vestas, il m'aurait dit, bon Olivier, t'es gentil, on te rappelle, nous on a besoin d'un truc, hein, n'oublie pas qu'on fait notre inspection avec des cordistes, toi t'es déjà au 22e siècle.
Ouais, les pieds
Et
sur terre.
voilà, et en fait, il faut pas faire ça. Je pense que moi je privilégie plutôt l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que tu vas accompagner ton client et peut-être que c'est lié à la nature de notre activité. Nous, on est des éditeurs de logiciels. Et
Et
en
donc tu le fais en
cela,
fonction des
notre activité,
besoins.
c'est qu'on analyse les besoins, les fonctionnements, les workflows, toutes ces choses-là, et on traduit ça en fonctionnalités logicielles. Et dans la mesure du possible, on essaye de les anticiper. Voilà, c'est ce qui fait notre
Et
force aujourd'hui sur le marché.
c'est moins risqué du coup qu'une
Mais
technologie de rupture en plus.
Ben oui, et en fait tu boucles la boucle là, c'est moins consommateur de cash, ça l'est quand même, on va pas se voiler la face, mais ça relève moins du pari, ça relève plutôt de la proposition de changement, et on travaille souvent dans des relations de partenariat avec nos clients, ils comprennent ce qu'on peut leur apporter, on n'est pas dans la prestation de services de développement sur mesure, on reste un éditeur de logiciels. Mais voilà, on est à l'écoute des besoins de nos clients et on fait ça pas à pas.
C'est comme ça que vous avez fait le pivot? Donc c'est vraiment en rencontrant vos clients
Ouais,
et
parce
t'as
que tu vois,
capté.
au
Ok.
début, la promesse qu'on tenait, c'était la plateformisation du service d'inspection en se reposant sur une communauté de pilotes de drones professionnels, mais indépendants. Ça, c'était la promesse initiale en 2019-2020. On l'a plutôt bien exécutée. Et au fur et à mesure qu'on a accumulé de la donnée, je crois que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a accumulé à peu près 1 million de dommages en base de données que l'on a extrait de 25 millions d'images collectées. Tu te rends compte, c'est colossal. Et
On a voulu apprendre de ça,
on a fait
quoi.
une transition, c'est-à-dire que le drone, finalement, c'est plus tellement le sujet. Ça reste un outil, hein, mais c'est plus tellement le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la capacité à traiter de la donnée avec de l'intelligence artificielle, à prédire l'avenir. Et aller beaucoup plus loin dans l'automatisation. On a fait nos calculs. Depuis 6 ans qu'on travaille avec nos clients, on leur a fait économiser 20 millions d'euros. Tiens, je te donne un autre chiffre là, tu vois. On
Solide.
leur a fait
Alors que
économiser 20 millions d'euros
il est temps d'augmenter tes prix, cher Olivier.
en ressources qui étaient précédemment allouées à l'inspection. Et on leur a dit, t'inquiète, je gère. Et donc, ces ressources-là, ils ont pu les déplacer et les mettre ailleurs, en l'occurrence sur la réparation.
Ok.
Ben, voilà, ça, c'est notre petite récompense, tu vois. Quand on partage ces analyses-là avec nos clients qui sont contents, ben, c'est notre satisfaction.
Justement, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, on a parlé d'enfance et d'adultes, mais on parlait aussi de... Je sais plus comment tu l'as dit, mais moi je parle de mimétisme ou de
Ouais.
costume. C'est endosser un costume qui est trop grand pour nous,
Ouais.
mais on se prête au jeu jusqu'à un jour devenir adulte, jusqu'à un jour devenir chef d'entreprise, embaucher des gens, avoir des gens qui nous font confiance, etc.
Ouais.
Sur l'entrepreneuriat, qui est-ce que tu as mimé à tes débuts?
Ah. C'est la question du mentor.
Non, c'est
Non?
une autre question, ça.
Ah.
Arrête d'essayer de deviner les
Ah.
questions. C'est la question du mentor ou quoi? C'est les questions d'outro, ça.
Qu'est-ce que j'ai mimé?
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Te dire que même, je sais pas, même quand on est en stage et qu'on commence à mettre notre costard cravate alors qu'on est payé 450 balles, pour
Ouais.
moi, on fait du mimétisme et on mime papa qu'on a vu, enfin, ça dépend des références, mais en tout cas pour moi, qu'on a vu... pendant 20 ans, tu vois, se lever le matin et aller bosser, quoi. Donc,
Ben, je suis désolé parce que je veux flinguer ta question.
t'as pas de...
Non, si, mais en fait, j'en reviens à la question du mentor.
Ok, bon, vas-y.
Et j'ai eu la chance
Après, si c'est la
que j'ai
même...
provoquée, déjà, donc là, on remonte en 1994, j'ai eu la chance de croiser la route d'Alain-Dominique Perrin, qui était à l'époque le PDG de Cartier. C'est celui qui, dans les années 80, a redonné vie à Cartier, qu'il a développé et l'a positionné au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai fait d'Alain mon père spirituel, le père que j'aurais voulu avoir d'ailleurs. Et en fait, on s'est pas quitté. Ça fait, ben, tu vois, on est en 2024, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et je me souviens de notre première conversation comme si c'était hier.
Ok.
Et c'est lui qui m'a guidé. Alain a cette capacité très, très, très rare de te donner l'impression que tu es le champion du monde dès la première entrevue. que tu es capable de déplacer des montagnes, de franchir n'importe quel obstacle et d'emporter quelqu'un derrière toi. Et ça, c'est vraiment un talent très rare. Je sais pas si j'ai hérité ça de lui, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.
Ok, ouais, c'est hyper intéressant. T'as capté quelle valeur de toi, à titre perso, à ses côtés? Qu'est-ce qui t'a confirmé ou sur quoi il a mis de la lumière comme, je sais pas, comme force?
D'abord, il m'a rassuré, je pense. Avec l'enfance que j'ai vécue, j'étais quelqu'un qui doutait quand même beaucoup de lui, hein, manque de confiance,
okay.
Syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là.
Donc lui, il a vu ton potentiel.
Et en fait, bon, je vais te raconter l'anecdote parce que aujourd'hui, ça me fait rigoler. Mais...
Bon, attends, je veux pas te mettre dans du perso ou quoi. Hein,
non, mais il se trouve que tous les deux, on a fait l'EDC, qui s'appelait l'école des cadres à l'époque. Mm-hmm. Et Alain, avec quelques autres anciens, je crois que c'était en 93-94, a racheté cette école-là. Et moi, je terminais ma coopération en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et là-bas, j'avais participé à cet élan. J'avais pas investi hein, dans l'école, mais j'avais participé à cet élan de redonner vie à la communauté des anciens de l'école. Il y en avait quelques-uns à Abidjan.
Okay.
Et je rentre en France et là, j'apprends que la nouvelle équipe aux commandes de l'EDC a décidé de devenir sponsor du Tour de France à la voile. Bon. J'étais un peu naïf, je connaissais pas le personnage auquel j'allais me confronter à l'époque. Et je prends ma plume, parce qu'à l'époque, voilà, on écrivait des lettres manuscrites. Et j'écris à Alain-Dominique Perrin, et probablement sur deux pages, je lui dis « Pourquoi je suis pas d'accord avec cette stratégie-là » Oh là 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 là, qu'est-ce que j'avais pas fait. Et j'ai été convoqué à une entrevue, probablement 15 jours après. Et là, je me suis retrouvé face à lui, et c'est ça qui est génial chez lui, c'est que il s'intéresse à tout le monde.
Il était tombé sous le charme.
Et ça a été le coup de foudre, vraiment. Il m'a retourné, mais comme une crêpe, alors peut-être comme les crêpes que je vendais quand j'avais 7-8 ans. Il m'a retourné, mais comme une crêpe, et là, ouais, ça a été le coup de foudre.
Pourquoi t'as voulu aller lui dire ça?
Et c'est pas que j'ai voulu aller lui dire, c'est il m'a convoqué pour.
Non, mais déjà lui faire la lettre. Pourquoi t'as fait ça? Juste pour comprendre.
Moi, j'étais peut-être un peu vert à cette époque-là. Hein. J'avais envie de le provoquer un peu, peut-être inconsciemment. Moi, je vais pas.
Mais est-ce que tu penses t'as provoqué même inconsciemment n'importe qui? Ou tu penses, est-ce que t'as pas provoqué te retrouver dans son bureau et te lier d'amitié
non,
avec ce mec?
Non, franchement, mais franchement, j'étais à milieu de penser que il allait me recevoir dans son bureau. À l'époque, Alain, là, on est en 94. C'était la star du luxe
okay.
En France, tu vois. Bon, Bernard Arnault était en pleine ascension. Il y avait François Pinault qui était en train de construire PPR. Moi, j'étais pas du tout intéressé par les métiers du luxe. Hein. J'étais dans un autre secteur d'activité. Mais le bonhomme m'intéressait. Est-ce qu'inconsciemment, je voulais provoquer ça pour qu'il me reçoive? Je saurais pas dire.
Ce que je me posais comme question, la mini-analyse, c'est de me dire qu'en fait, ça restait de base quelqu'un qui t'impressionnait.
Ouais.
Mais t'as pas été d'accord avec une de ses prises de position.
Mmh.
Et du coup, t'as voulu, parce que tout le monde va dans son sens, lui faire savoir que t'étais pas d'accord avec lui.
Ouais.
Et je me dis qu'en fait, c'était ta manière de te démarquer et qu'il puisse te remarquer, non?
Bah, je crois que c'est,
on se met dans ta tête beaucoup plus jeune, etc. On a tous nos biais, BIAIS, pas les thunes.
Ouais, je crois que ça fait appel aussi, toujours pour revenir sur le terrain de la psychologie à trois balles, ça fait appel à ma personnalité de l'époque, j'avais besoin de me construire en opposition par rapport à un adulte, tu vois, et j'avais trouvé un morceau de choix là, hein. Mais j'étais vraiment à milieu d'imaginer ce qui allait se passer, et voilà, je sais pas, l'entretien a dû durer une demi-heure. Mais bienveillant, ferme, mais bienveillant, très riche d'explications. Et je suis ressorti de là, enfin, totalement converti. Et en fait, j'ai appris un peu plus tard que qu'Alain-Dominique Perrin était un fan de nautisme. Bon Dieu, si j'avais su ça avant de lui écrire, probablement que j'aurais pas écrit.
C'est tu la finalité.
C'est
coup.
Ça.
Ok,
c'est ça.
D'accord. Alors, ouais. En fait, non, mais c'est drôle. En fait, il te manquait une info.
Ouais.
Du coup, ça faisait aucun sens dans le personnage que tu voyais de Alain. Et du coup, bah, tu t'es dit, je vais lui faire savoir.
C'est ça, mais ça nous renvoie à ta question d'il y a quelques instants là. Est-ce que parfois il faut fermer les yeux pour ignorer le risque? Bon, ben là, inconsciemment, j'avais fermé les yeux. Je m'étais pas bien renseigné sur le personnage.
Mais t'avais envie de lui exprimer un truc.
Mais j'avais envie d'en découdre. C'est ce que je t'ai dit. Mmh. Liberté, créativité, volonté. Et là, j'avais envie d'en découdre. Je savais pas comment ça allait se terminer.
Ben, regarde.
Voilà. Mais
aujourd'hui, on fait ce podcast. Quelle belle finalité.
Voilà. Et ça a été une rencontre super structurante. Jusqu'à aujourd'hui. On est encore en contact et je l'aime beaucoup.
Ben, je veux continuer dans l'humain.
Ouais.
Mais on va pas parler de toi, on va parler de tes équipes.
Ouais.
C'est une petite équipe ou pas déjà? 13, 15 personnes, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, 13, c'est bien. On a clairement franchi le... Bah, tu sais, dans un parcours d'entrepreneur, l'enjeu, c'est de passer de homme orchestre à chef d'orchestre. Homme orchestre, je l'ai été, évidemment, comme tous les entrepreneurs, chef d'entreprise.
Quel lapsus
pendant les 4-5 premières années. Non, il y a entrepreneur chef d'entreprise,
oui,
et
entrepreneur start-upper,
leveur de fonds. Ouais. Donc là, je précise, entrepreneur chef d'entreprise.
Il y a les start-uppers bootstrappés. Je crois que Olivier vous aime bien.
Oui, vraiment.
Autofinancé.
Et donc, pendant ces quelques premières années, t'es l'homme orchestre, tu fais tout.
Mm.
Et puis, petit à petit, tu commences à t'entourer de compétences, de gens. L'art de bien s'entourer, évidemment, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi dans chacun des compartiments du jeu. Mmh. Et jusqu'à 10, tu peux gérer les sujets en one-to-one avec tous les membres de ton équipe.
13, c'est
déjà
compliqué.
Là, 13, ça devient compliqué. Maintenant, il faut structurer, il faut construire des verticaux. Chez nous, on a un vertical opération qui est dirigé par Camille, championne de marathon, est arrivée deuxième féminine au marathon de Paris il y a quelques jours. Bravo.
Bravo.
Il y a un vertical développeur, développement d'applications qui est dirigé par Nicolas. Et il y a un troisième vertical qui est traitement, gestion de la donnée, qui est dirigé par Clément, qui est un jeune qui est arrivé dans notre équipe en tant que stagiaire, qui a un potentiel incroyable et qui
c'est
nous aide
le doyen.
Beaucoup. Comment?
C'est toi le doyen?
Je suis le doyen, ça doit se voir à la couleur de mes cheveux.
J'ai pas osé.
Voilà.
Si, tout à l'heure, je l'ai osé en off. Ouais. J'ai dit, me parle pas. Oui, je sais plus ce que je t'ai raconté, mais bref. Je voulais parler de ça, donc je voulais te parler de management.
Oui.
Mais prends ce prisme toujours d'humain et de management. Est-ce que c'est pas les mêmes enjeux quand vous êtes 2, 3, 5, 7, 10, 13? Qu'est-ce que tu kiffes le plus? Qu'est-ce que tu kiffes le plus? Est-ce que réellement avoir 3 personnes référentes sur chaque pôle qui gère son équipe, c'est quelque chose qui, toi, te fait mieux dormir le soir? Ou à l'inverse, tu trouves ça dommage de ne pas avoir ce contact direct avec tout le monde, mais ce qui est aussi proportionnel à la taille de l'entreprise? Je peux continuer à broder si tu veux.
Non, c'est bon, il y a plusieurs manières de répondre à ta question, mais... Je vais encore prendre ça par le biais de la psychologie. Les pédopsychiatres vont te dire qu'un enfant à la naissance s'engage sur le chemin de la vie, un peu comme s'il était sur une passerelle au-dessus du vide, et que pour le rassurer, il a besoin de deux rambardes. La première, c'est la nourriture affective, et la deuxième, c'est le sentiment de sécurité. Alors, ça peut être la sécurité matérielle, ou alors ça peut être l'établissement d'un cadre de fonctionnement qui, d'une certaine manière, va le rassurer. En réalité, je pense que même quand on est adulte, on a besoin de ça. Et que mon rôle en tant que chef d'entreprise, alors je me suis ouvert à ces sujets très récemment, mais je pense qu'inconsciemment, mon rôle dans le chef d'entreprise, ça a été un petit peu ça. C'est-à-dire de considérer que le groupe qui m'entoure sont des proches et je leur dois de la bienveillance. C'est pas un devoir, hein, c'est une conviction d'ailleurs. Mmh. Et pourquoi pas donner un peu d'amour aussi, il faut oser le mot, hein. Chacun a ses problèmes familiaux, personnels, etc. Et je pense que c'est important, et il me semble que c'est un contrat social juste, tu vois. Moi, ce qui me laisse quand même profondément sceptique dans les entreprises, pas toutes, mais ça a quand même pas mal fleuri, c'est cette espèce de concept de Chief Happiness Officer, tu vois, où tu remets soi-disant ou supposément le bonheur de tes équipes entre les mains de quelqu'un qui va décider que pour te rendre heureux, je vais mettre des canettes de coca dans le frigo, je vais mettre un billard...
un billet, je croyais que t'allais dire
non,
encore.
Non, un billard dans la salle de repos. Enfin,
je suis
tellement éloigné
de ça. Pour
toi,
le happiness doit être partie intégrante.
Mais tu peux pas décider du bonheur
sûr,
à la place des autres.
Objectif.
Alors, en revanche, il y a un sujet qui est super important. C'est que tu peux pas rendre heureux les gens autour de toi si toi-même n'es pas heureux. Ça, c'est voilà, c'est pas une Maxime Maffrand. Hein,
ah bah je le, allez, c'est bon. Hein. Moi, cite. Non, mais dans chaque podcast, je cite Kendrick Lamar. Et je te lis, il dit, you cannot help the world until you help yourself.
Mais exactement.
Et donc c'est la même
chose. Et ça, je l'ai vécu encore très récemment. Donc je répète, on peut pas rendre les autres heureux, y compris ceux qui t'entourent, si toi-même n'es pas heureux. Mm-hmm. Et il faut bien dire une chose, c'est au bout de 20 ans d'entrepreneuriat, des hauts et des bas, inévitablement tu en rencontres. Hein. Au début, il y a beaucoup de bas. À quelques hauts. Et heureusement, avec le temps, en tout cas en ce qui me concerne, maintenant il y a beaucoup plus de hauts que de bas. Les bas, c'est indispensable parce que ça t'apprend à rebondir, à agir, à transformer une mauvaise nouvelle en opportunité. Donc cette gymnastique-là, il faut s'y entraîner, c'est un muscle, hein, il faut le travailler. Mais il faut quand même bien admettre que, à force, ça laisse des traces.
S'il y a moins de bas aujourd'hui.
Ouais.
Proportionnellement par rapport au nombre de hauts.
Ouais.
Est-ce qu'ils font plus mal quand il y a des bas ou au contraire ils sont compensés par les hauts ?
Non, parce que je crois pas que les bas fassent plus de mal, ils sont nécessaires. C'est une bonne piqûre de rappel qui va réveiller ta petite voix intérieure qui va te dire Olivier ne prend jamais rien pour acquis. Donc les bas sont indispensables. Maintenant, je crois que c'est l'accumulation de bas qui laisse des traces, tu vois. Et je pense que cette accumulation-là, elle te fait un peu oublier l'entrepreneur joyeux des premiers jours, insouciant, etc. Et j'ai décidé de prendre ce taureau par les cornes, là, moi, tu vois. J'en ai parlé à une amie comédienne assez connue. Et je lui ai demandé de m'aider et elle m'a mis en relation avec un prof qui s'appelle Simon Janin, qui est prof du cours Florent. Okay. Et le brief que j'ai donné à Simon est le suivant. Je lui ai dit aide-moi à mettre le sourire en haut de la pile, tu vois.
Parce que ça devient une priorité pour toi.
Ouais, ça devient vraiment une priorité, retrouver le plaisir, retrouver l'envie qui sont voilà les mots d'ordre que je me suis fixé depuis le début de mon parcours. Mmh. Mais parfois on l'oublie. Et là j'en suis quoi à ma troisième séance de théâtre. Ce sont des séances d'une heure et demie avec Simon. Mais qu'est-ce que je m'éclate. Mais c'est le kiff absolu. On se marre. Il me met en danger en fait. C'est ça que j'aime bien. J'apprends le lâcher prise. On peut se raconter des conneries. On peut se accepter de se lâcher dans l'exagération du jeu d'acteur et c'est un régal.
Est-ce que c'est parce que dans ton job au quotidien tu dois être dans une constante maîtrise des émotions, maîtrise de ce que tu vas dire et de comment tu vas le dire versus le théâtre, je veux dire, qui est un exutoire?
Ouais, carrément.
Tu considères que t'as pas le droit à l'erreur auprès de tes employés, toi?
Ouais. Bon, alors là encore, on gratte plusieurs sujets.
Ça veut dire, le podcast est bientôt fini, tu vas pas avoir le temps, Yacine.
Bon, c'est tout à fait anecdotique, mais je suis natif de la Vierge, et les Vierges sont connues pour être méticuleux jusqu'à un point d'en être chiant. Là, je me reconnais quand même bien là-dedans.
Je vais faire en sorte que
en effet, je pense que ma construction personnelle, mon enfance, adolescence font que beaucoup moins maintenant, hein, sincèrement, mm-hmm. mais pendant pas mal de temps, j'ai eu besoin de me prouver quelque chose et que ça a déclenché une quête de la performance, une quête du toujours plus, etc. Là, maintenant, ça s'est bien calmé, mais en effet, j'ai pas une tendance naturelle à l'improvisation. Il m'est arrivé de le faire et je pense que j'arrive à m'en sortir, mais c'est pas mon truc naturel.
Mais t'es
théâtre,
fier de toi d'y être allé. Ouais, quand tu le fais.
Ouais, alors je suis pas nostalgique, je regarde pas toujours la route que j'ai parcourue. Je trouve ça chiant, la nostalgie. J'ai toujours regardé devant. Mais je suis assez content de ce qui s'est passé jusqu'à présent et l'histoire est pas finie.
C'est drôle, je le rapporte un peu à mon histoire parce que récemment, je sais pas, j'arrête pas de dire et je le dis haut et fort et malgré que tu sois là avec moi, le podcast n'est pas ma mission de vie. Et je pose souvent la question, elle va arriver, t'inquiète. Mais voilà, j'arrive à trouver à l'instant T quelque chose. Et en fait, j'ai fait le parallèle. Prochainement, je vais, enfin, j'espère faire des scènes. Ouais. J'espère recevoir des personnes de grosse notoriété, blablabla. Et en fait, je fais genre, mais je suis en train de me chier dessus avant. Et pareil, j'ai fait un peu de stand-up, etc. Juste avant les spectacles, c'est horrible. J'en sors, j'ai l'impression d'être le roi du monde.
Mais vraiment.
Et en fait, je me suis fait la réflexion, et c'est comme le sport. Bon, j'ai pas encore ça, mais tu prends du plaisir dans la douleur. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je cherche des situations où je vais être stressé, où je vais pas perdre mes moyens, mais va vraiment falloir que je sois focus.
Ouais.
C'est
alors,
paradoxal, je trouve.
Conseil de vieux, hein, parce
vas-y,
que t'as remarqué que j'ai des cheveux gris.
Le cœur peut être fragile.
Moi, je me suis mis à la course à pied il y a 10 ans. Et avec un objectif probablement inavoué, c'était pile à juste après le dépôt de bilan de ma première start-up. Et là, je me suis lancé de manière effrénée dans la course à pied, alors que j'en avais jamais fait. Mm-hmm. Et j'ai enchaîné les semi-marathons. Bon, quand je dis enchaîner, je sais pas, j'ai dû en faire 5-6 des semi-marathons. Mais je le faisais à la fois pour la perf, puisque c'est un truc que j'avais jamais fait, mais aussi pour souffrir probablement. Et je voulais pas me l'avouer. Et maintenant, c'est devenu un plaisir, tu vois. Et ça, c'est important, la quête de plaisir. Alors, je vais te donner un deuxième exemple, et j'en reviens à mon premier cours de théâtre avec Simon. Mmh. Il me dit, pour le premier cours, tu vas venir avec un texte et tu vas apprendre à le dire. Et là, je
t'as
suis allé, en fait, le texte, je l'avais déjà sous le coude.
Ok.
C'est qui? Moi, c'est un texte super important. C'est le discours d'ouverture du Festival de Cannes 2018 par Édouard Baird. Alors, Édouard Baird est un de mes acteurs préférés, mais vraiment le discours qu'il a fait ce jour-là est extraordinaire parce que ça raconte la vie d'un réalisateur. Qui porte son film un peu comme un entrepreneur porterait son projet d'entreprise et il raconte toutes les étapes de la création du scénario, ensuite de la recherche de producteurs et ensuite éventuellement la possibilité de participer à quelques festivals jusqu'au jour où le Festival de Cannes l'appelle et le met dans la sélection. Et tu vois, il t'embarque dans cette histoire avec ses talents de conteur.
Bien sûr.
Et moi, j'étais content très modestement. Alors, je t'assure que j'ai vraiment pas fait du Edouard Baird pendant mon premier cours de théâtre, mais j'ai eu énormément de plaisir à dire son texte, à le singer et à me dire quelque part, j'aimerais bien, je sais pas combien de cours je vais prendre, peut-être une vingtaine ou une trentaine de cours, mais j'aimerais bien qu'à la fin de ces 30 heures de cours, je m'imagine Edouard Baird. Sur cette scène, je pense que j'en serais incapable parce que je serais mort de trouille.
Mais c'est du mimétisme.
Oui, mais tu sais, il faut toujours s'inspirer de gens qui réussissent. Important. Ouais.
Je voulais te demander, c'était un peu la dernière question là-dessus avant d'arriver sur la question de fin. Je voulais te demander, moi, tu as des enfants.
Oui, trois.
Et je voulais savoir, est-ce que tu leur recommanderais d'être entrepreneur ou chef d'entreprise, mais je vais te poser une question différente qui rejoint un peu celle-ci. C'est une bonne situation, ça, chef d'entreprise. J'espère que t'as la ref, hein, sinon je vais m'énerver. Hein.
Non, je l'ai pas, mais je vais quand même répondre à tes
questions. T'as pas la ref?
Non, dis-moi.
Édouard Baird dans Mission Cléopâtre.
Ah,
c'est une bonne situation, ça, Scribe. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie, bon, je ne vais pas te le faire, mais voilà. Bon, bref, non, plus sérieusement.
Les enfants, non. J'ai même pas besoin de leur demander ou d'évoquer le sujet. D'emblée, ils m'ont dit, mais on sera jamais chef d'entreprise.
Essaye même pas de me refiler ta
Non,
bébé,
mais vraiment
là.
Pas. Je crois que je les ai vaccinés. Ils ont absolument pas cette aspiration. Ils sont heureux dans ce qu'ils font.
Tout ça pour faire de la course à pied.
Et je m'en réjouis. Après, est-ce que c'est une bonne situation chez l'entreprise? Ça dépend comment tu regardes les choses. Si c'est financièrement, si c'est en termes d'épanouissement, de réalisation personnelle. Si
l'entreprise va bien, bah aussi.
Oui, bah quand l'entreprise va bien, le reste suit, hein, financièrement et au niveau du mental. Moi, je crois que ma quête, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu narcissique, hein, mais c'est de me dire « Yes, j'avais raison avant les autres ».
Ok.
Je crois que quand tu te lances,
y a de l'intuition.
Tu bâtis un parcours sur la base d'une vision, te disant « ça, c'est le chemin que je dois prendre ». Je vais montrer aux clients potentiels que je peux les emmener là. Et au bout du compte, quand la réussite pointe le bout de son nez, qu'elle se consolide, qu'elle s'agrège, tu as ce petit plaisir un peu égoïste de te dire ah, j'avais raison.
Il y a une question que je t'ai pas posée, moi. Ouais. Je voudrais que tu répondes de manière très simple et directe.
Mmh.
Allez, j'allais te faire le parallèle, mais non, je vais même pas le faire. Pourquoi ça marche, Singulaire?
Qu'est-ce qui fait que ça marche?
Ouais. Me dis pas une techno de rupture.
Non, moi, non, non. Je pense qu'il faut incarner ce que tu proposes. C'est marrant, d'ailleurs, ça nous renvoie au travail d'acteur. Mais je crois qu'entrepreneur, c'est un très, très, très gros travail d'exercice de conviction. Tu dois convaincre des clients, tu dois convaincre des banquiers, tu dois convaincre même l'URSSAF éventuellement, tu dois convaincre
toi,
des collaborateurs,
toi
tu dois convaincre
premier.
Des fournisseurs, puis évidemment, toi ouais. Le premier. Et ça se travaille tout ça. Et je pense que c'est pas la seule condition, c'en est une qui est importante.
C'est quoi, c'est un alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais?
Ah oui. Ah oui, s'il y a le moindre écart, ça se détecte tout de suite.
Okay.
Là, tu perds tout de suite ta crédibilité, puis les gens passent à autre chose. Donc ouais, il faut être totalement aligné, être sûr des valeurs que tu défends et la manière dont tu les défends. Ouais.
On passe sur la question de fin ou pas?
Allez.
Ok, trop déjà cool. Ouais, déjà. Bon, ça fait une heure, quoi. Est-ce que t'as pris du plaisir, déjà, à échanger
énormément.
Avec moi?
Énormément. Oui, ouais, c'est la première fois que je me livre à cet exercice-là et ouais, c'est... J'étais plutôt à l'aise, je
pense. Ça va, j'ai pas menti, hein. Je t'ai dit que ce serait cool et que je suis un gars très cool.
Mais ça l'est.
Et que je vais te faire chier sur de la psycho. J'ai pas menti. Oui, première question qui est toute simple.
Ouais.
C'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre à tes 18 ans ou avant de monter ta première boîte, disons? Je crois que c'est peu de temps après, donc.
Je crois que c'est super difficile de recevoir et de donner des conseils. Tout à l'heure, je donnais l'image. Du surfeur qui arrive sur la bonne vague au bon moment avec le bon surf dans le bon état de préparation. En fait, il y a une autre image qui est très forte moi dans mon imaginaire. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à mon beau-fils qui est ingénieur du son et DJ. Moi, j'ai l'image d'une table de mixage où t'as, je sais pas, 200, 300, 400 boutons et t'as des génies qui savent faire les bons réglages pour sortir le bon son, tu vois. Et la vie d'entrepreneur, c'est ça. Je sais pas s'il y a 400 réglages à faire, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ce serait un peu prétentieux de vouloir donner des conseils. Voilà. Deux choses. La première, moi, je pense là, en ce moment, à un philosophe célèbre du 21e siècle qui s'appelle Marcelo Bielsa quand il était entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Alors, désolé, c'est la petite parenthèse parce qu'il y a le beau logo juste là.
Ah oui. Moi, je suis supporter des Girondins de Bordeaux, mais enfin.
Et il y a les demi qui arrivent, car on se parle le lendemain de la.
Mais non, mais Olympique de Marseille, les initiales, c'est OM, ils sont, les miennes et droit au but, ça me va bien aussi comme devise.
Allez, va.
Mais voilà, Marcelo Bielsa dit un jour à l'entraînement, le joueur fait ce qu'il a appris à faire et pendant le match, il fait ce qu'il peut. Voilà, et c'est une différence fondamentale et je suis bien d'accord avec ça. Alors plutôt que de donner des conseils, moi je peux partager le mantra que je me suis construit tout seul. Franchement, ça a fonctionné. C'est un mantra qui tient en trois syllabes. C'est pas dur à retenir. C'est ta pécho.
Ta pécho.
Ta pécho. Voilà. Donc j'explique.
Ah voilà, faut que tu m'expliques.
Ta, ça fait référence à Talleyrand, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et Talleyrand te dit, on ne croit que ceux qui croient en eux-mêmes.
Ok.
Hein, je répète parce que c'est assez puissant comme phrase. On ne croit que ceux qui croient en eux-mêmes. Là, ça te renvoie à la confiance en toi. Ça, c'est indispensable pour avancer. Le meilleur exemple, je pense que beaucoup d'auditeurs ont vu cette série sur Bernard Tapie sur Netflix. C'est hallucinant la confiance en lui qu'il avait, ce monsieur. Après, on peut être à l'aise ou pas du tout avec sa façon de faire. Mais la confiance en soi, c'est indispensable. Donc, ça, c'est pour Talleyrand. Deuxième P, là, on est un peu plus sérieux. On est dans le scientifique, c'est Pasteur. Pasteur a dit un jour, la fortune ne sourit qu'aux esprits préparés. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que il faut te préparer, identifier les opportunités.
Ouais.
J'écoutais un de tes podcasts il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a abordé ce sujet-là Et c'est vrai, combien de fois à mes débuts, j'ai vu l'opportunité une fois qu'il était trop tard. Tu vois, et là c'est pareil, il faut que tu t'entraînes. Alors, c'est pas être opportuniste, hein, c'est un gros mot en France, être opportuniste, mais c'est savoir identifier.
Ah, moi je suis full opportuniste, hein. Ah, moi je le dis, mais haut et fort, dans le sens où je lance 50 000 cannes à pêche et on voit celle qui mord. C'est ça l'opportunité pour moi. Enfin, c'est la provoquer. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu.
Oui, t'as raison, il faut la provoquer, il faut savoir la saisir, qui sont deux choses différentes. Il faut savoir surfer dessus sans écraser les autres, évidemment. Ouais. Donc ça c'est pour P et chaud. Alors là on est encore plus sérieux dans l'élévation intello. C'est Schopenhauer. Je pourrais faire du Lucini. Schopenhauer a dit. Dans ce monde est l'expression de la volonté. Mais c'est tellement vrai. Tout dans ce monde est l'expression de la volonté. C'est tellement vrai. Tu peux arriver, tu reprends Talleyrand, tu peux arriver, t'as confiance en toi, tu reprends Pasteur, tu peux arriver, tu t'es bien préparé, tu vois, mais si t'as pas la volonté d'y aller, si t'as pas les tripes, si t'as pas l'envie, tu passes à côté du truc. Donc,
Si t'as pas l'envie, ou tu le fais pas, ou tu le vois pas, si on revient à l'opportunité.
Ouais, mais la volonté, c'est capital. Tu le vois parfois hein, chez les sportifs. Moi, c'est un truc qui m'a étonné. Parfois, tu écoutes des sportifs ou des commentateurs sportifs qui te disent « Bah lui, là, tel joueur, il avait pas envie. » C'est dingue. Les mecs, ils sont payés des millions d'euros en première ligue. Et puis, bah, tu le vois sur le terrain. À un moment donné, ils ont pas envie.
Non, mais si c'était que de l'argent, on aurait déjà investi dans des machines qui jouent. C'est pas des... Enfin, c'est
Je sais pas si l'IA remplacera les joueurs de foot. Ce serait sans intérêt, d'ailleurs.
Intérêt. Et c'est la beauté du sport. C'est exactement. Que rien qui peut être prédit parce que... Excuse-moi, je t'ai interrompu ou t'avais
fini? Oui, non, mais j'avais fini pour le mantra. Donc, t'as Pécho, Talleyrand, Pasteur, Schopenhauer. Ça se résume sur la confiance en soi, la préparation et la volonté.
Ok, très clair. Je vais pas te poser la question du mentor. Parce que tu as déjà répondu.
Déjà parlé, ouais.
Dédicace à...
Alain-Dominique Perrin.
Alain, hein,
et je l'embrasse au passage.
Je voulais pas me tromper avec... Attends, laisse-moi... Tu l'as dit tout à l'heure, ton prof de théâtre.
Ah, Simon Jeanne.
Simon Jeanne, ok, c'est ça. Bon, est-ce que tu peux me résumer ta mission sur cette terre? Ce pourquoi tu as envie, en tout cas à la fin de la...
Je pense ou j'aimerais accomplir ça. Ma vie n'est pas finie.
Je te le souhaite.
J'aimerais rendre heureux ceux que j'aime. Voilà, je pense que c'est une belle mission.
Ok. J'ai quand même envie de te poser une dernière question.
Mais... Ouais.
Ok, je te la pose celle-ci. Je pars du principe que l'entrepreneuriat requiert de la folie. Tu vois, les gens disent que... Et moi, je pense que la folie est bonne. Ça, c'est mon avis. Mais voilà. Enfin, bon, ça dépend. Mais en tout cas, on a encore une fois trop mis un aspect péjoratif là-dessus. Souvent, cette folie, elle vient d'un trauma. Ok, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que... quand je dis un trauma, un événement, un truc qui reste, mais un truc qui permet de se surpasser... Est-ce que tu t'identifies à un truc qui te permet toujours d'aller plus haut, quoi? Après, c'est pas fini, j'ai quand même une ou deux autres questions.
Ouais, je reviens à ce que je disais au début, là, quand j'évoquais mon enfance et mon adolescence pas très heureuse. Alors, c'est pas de la folie, hein, mais j'ai toujours suivi ce fil d'Ariane de l'espoir d'avoir de vivre des jours meilleurs, tu vois? Et comme disait Annie Cordy, ça irait mieux demain. c'est un peu ça. J'ai une espèce de dinguerie où finalement, quand les mauvaises nouvelles de la journée s'accumulent, parfois c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Moi, tu te dis, oh, ça ira mieux demain. Voilà, t'as cette faculté d'oublier un petit peu les difficultés et de passer à autre chose. C'est pas toujours évident. Hein, mm-hmm. Y a des difficultés plus conséquentes que d'autres, mais voilà, il faut essayer de faire ça.
Ben je pense qu'une personne tu vois dépressive ou résignée te dirait que c'est de la folie de penser ça. donc je vois très bien. On termine avec les dernières questions.
Ouais.
Je crois que je te les avais pas posées, mais c'est pas grave. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien?
Je suis pas loin du 9.
OK. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien?
Ah, là c'est la question, riche de quoi? On est riche de ses amis, de ses amours, de son parcours professionnel, financièrement, éventuellement.
On veut une réponse.
Tu veux une réponse? Pareil, de 1 à 10. Voilà, il y a beaucoup de variables dans ta question. Je sais pas, allez, 7,5.
7,5.
7,5, 8.
Ok.
Ouais.
Sur une échelle d'un à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien?
12.
On a dit sur une échelle. Non, je rigole. Et sur une échelle de 1 à 10, ouais. À quel point ton job est difficile au quotidien?
Oh, ça dépend des jours. Difficile, c'est 10?
Ouais. Et 0 ou 1, c'est très facile.
Non, je dirais 5.
Ok.
Je dirais 5. Ce sont des situations équilibrées. Et de toute façon, je peux pas me plaindre parce que c'est quelque chose que j'ai choisi. Voilà.
J'avais la volonté.
Je l'assume. Et donc 5 parce que c'est jamais 0 et c'est jamais 10.
Et c'est ma dernière question, promis. Si t'étais pas entrepreneur aujourd'hui,
ouais.
Tu t'imagines que tu serais quoi? Que tu ferais quoi?
quand j'étais ado, et ça m'a pas quitté, j'étais fan de Dépêche Mode.
Ok.
Et je sais pas, je devais mesurer à cette époque-là 1m60, quelque chose comme ça. Et il se trouve que dans ma chambre, j'avais la bouche à hauteur de la poignée de la fenêtre. Et je prenais la poignée pour mon micro, tu vois, comme quoi je boucle la boucle aujourd'hui. Et je m'imaginais Dave Gahan, qui est le chanteur de Dépêche Mode, sur scène. Et en fait, c'était probablement un rêve secret. J'ai joué de quelques instruments de musique, mais je suis jamais allé au bout parce qu'à cette époque-là, j'abandonnais dans l'effort. Clairement, j'ai opéré un virage sur ce sujet-là, mais ouais, je pense que j'aurais aimé être chanteur dans un groupe. Ouais.
T'as des regrets de pas avoir exploité ce côté artistique ?
Oui.
Ou
oui, oui, mais je pense que mon incursion dans le théâtre fait écho à ça.
Ok.
Ouais, je pense que le développement de l'entreprise me laisse de plus en plus de temps. J'aimerais m'ouvrir et revenir à la musique parce que c'est important pour moi. Mais pas en consommateur, écouter Spotify, mais voilà, en jouant de la musique, en jouant dans un groupe. Ça, j'aimerais bien, ouais.
Allez, je lance la petite bouteille à la mer. Je crois que tes trois enfants nous écoutent. Dis à papa de faire un peu de musique et d'envoyer à Yacine et on mettra dans le podcast. Bon, un grand merci Olivier.
Merci Yacine, c'était un plaisir.
C'était un long mais passionnant podcast.
Merci, très sympa. J'ai beaucoup aimé.
Merci de t'être livré sans langue de bois et je m'adresse à tous nos auditeurs. J'aime bien terminer avec ça. Un grand merde. Ah, et d'ailleurs, un nouveau micro. J'espère que vous avez validé la qualité audio. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. Mais sinon, plus sérieusement, un grand merde et bon courage à toutes et tous dans vos aventures entrepreneuriales ou professionnelles. Allez, à très très vite, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Au revoir à tous.
Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao !